Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon lundi après-midi, Marianne Paquette au micro pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M et en ce 14 décembre. Peut-être que ça vous rend triste, nostalgique, inquiet, toujours pas de neige. Et peut-être que vous associez neige et période des fêtes. Pour moi, Noël, c'est plutôt synonyme de rencontre familiale, de repas aussi savoureux. Je suis déjà en train de saliver à ce que je vais manger pendant la période des fêtes. Également, des cadeaux, hein, c'est assez inévitable. Mais je suis assez consciente que ce n'est pas le cas de tous. Selon le bilan fin 2015 qui est publié sur le site de Moisson Montréal, 146 230 personnes, et là-dessus, il y a 23 % d'enfants sont bénéficiaires d'une aide alimentaire chaque mois. Et ce, par l'entremise d'organismes, on parle de 244 organismes communautaires qui sont desservis sur une base régulière ici sur l'île de Montréal. Donc, on peut imaginer qu'ailleurs au Québec, ça résonne encore plus fort. Évidemment, en cette période de l'année, on est encore plus sollicité. On aimerait aider, hein, nos cœurs sont sensibles, mais on ne sait pas toujours comment le faire de façon adéquate. Tout à l'heure, Julie Bourbonnière pourra nous donner quelques indices, elle qui travaille du côté de Moisson Montréal. Et puis, vous dire que depuis quelques années, il y a plusieurs chercheurs d'un petit peu partout à travers le monde qui tentent de démontrer les liens entre le mieux-être des gens qui vivent avec la maladie de Parkinson et un mode de vie actif qui inclut de l'activité physique, de la musique, de la danse et même du chant. Ici à Montréal, on n'est pas en reste avec notamment l'organisation Parkinson en mouvement qui offre des cours de danse, mouvement, de chant, également de thérapie par la danse. Et tous ces cours sont conçus pour les gens atteints de Parkinson. J'en parle à l'instant avec Sarah Humphrey et Jacqueline Aska. Jacqueline Aska, bonjour.
Bonjour.
Votre voix, elle est toute là. Vous étiez un petit peu inquiète.
Bien, j'étais inquiète parce que j'ai eu une extinction de voix toute la semaine. Alors, je me mets à tousser puis je perds la voix. C'est juste vous dire que même si on danse pour contrer les problèmes de Parkinson, ça n'enlève pas le rhume et la grippe.
Jacqueline Aska, vous êtes responsable du développement chez Parkinson en mouvement. Et Sarah Humphrey, présidente et fondatrice de Parkinson en mouvement. Sarah, vous avez reçu il y a un peu plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, un diagnostic de Parkinson. Est-ce que ça a été ce diagnostic qui a été peut-être le déclencheur de la création du développement de l'organisme Parkinson en mouvement?
Oui, c'est certain. Je ne serais pas en train de travailler avec Parkinson en mouvement si je n'avais pas eu ce diagnostic-là. Mais enfin, ça va 20 ans.
20 ans.
En 2016. Et pendant les premières années, je faisais tout pas possible de ne pas rencontrer d'autres personnes avec la maladie de Parkinson. Et c'était
confrontant pour vous,
oui,
peut-être?
Oui, j'avais peur de ce que j'allais voir. Mais finalement, je me suis habituée à cette maladie et j'ai confirmé que ma vie n'était pas fini.
Ouais.
Je pouvais faire tout ce que je voulais faire et avec certaines contraintes, des médicaments 4-5 fois par jour. Et c'était l'exercice qui me manquait et j'en ai discuté avec une amie qui est danse-thérapeute, puis elle a dit « on va monter quelque chose
».
Et on a approché un organisme communautaire qui offre des cours de tai chi et basketball et des cours de langue, le centre récréatif Milton Park. Puis on leur a demandé de nous parrainer pour voir s'il y avait des gens qui seraient intéressés par un cours de danse. Et tout de suite, on avait une quinzaine de personnes qui sont venues. Et plusieurs, parmi ces 15-là, il y en a toujours 4 ou 5, presque ben, 8 ans plus tard. Alors, ça a fonctionné. On avait choisi un lieu non thérapeutique. On ne voulait pas être dans un hôpital. On voulait être dans un milieu artistique. On voulait faire de la danse. Et le démarrage était mieux qu'on aurait osé rêver. Et un physiothérapeute qui travaille avec les gens en milieu hospitalier est venu se joindre à nous. Et ça a donné une combinaison de savoir-faire qui était parfait. La danse avec le physio, ça a fait... ça a confirmé pour nos participants que c'était à la fois quelque chose de bien, mais lié à des recherches et prouvé par plusieurs documents puis des expériences ailleurs. Et c'est quelque chose qui se
reconfirme parce que créé en 2007, Parkinson en mouvement, et vous continuez toujours à être bien présent et on entend parler de vous de plus en plus. Peut-être ce qui distingue, et vous le disiez, Sarah, c'est qu'il y a des expertises au sein de Parkinson en mouvement, une danse thérapeute, comme vous l'avez dit, et également une danseuse physiothérapeute aussi, donc des gens qui s'allient ensemble pour promouvoir un peu la mission. Qu'est-ce qui distingue Parkinson en mouvement, peut-être ce qui distingue votre approche? Jacqueline ou Sarah?
Ben moi, je dirais justement, c'est l'alliage des deux. Parce qu'il y a quand même, par exemple, simplement danser. Par exemple, quelqu'un qui a le Parkinson irait faire n'importe quelle danse, le tango, n'importe quoi, ça serait bon, simplement parce que ça les fait bouger. L'approche de Parkinson en mouvement, c'est comme un élément de plus parce qu'on intègre des connaissances réelles par rapport au... difficultés particulières reliées au Parkinson, des difficultés physiques, par exemple, des mouvements qui perdent beaucoup d'amplitude, qui perdent de la dextérité manuelle, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça, et aussi des éléments cognitifs. Il y a des pertes cognitives avec le Parkinson, il y a des problématiques au niveau de l'humeur. Alors, on met tout ça dans un bain de ces connaissances-là, de c'est quoi les problématiques de la maladie. Puis là, on intègre des connaissances en danse et des connaissances en physiothérapie pour développer un cours où les gens sont là puis ont du plaisir à danser ensemble, à faire des chorégraphies, à faire des improvisations. Mais tous ces mouvements-là sont pensés spécifiquement pour activer certaines parties du cerveau qui sont affectées par la maladie. Alors, toi, tu es là comme participant, puis tu as du plaisir à le faire, mais la personne derrière qui l'a conçu, elle pense à « je vais te faire faire telle chose parce que ça va te faire travailler tel élément ». Alors, ça a l'air hyper scientifique sur papier, mais quand tu es là, c'est simplement que tu as le plaisir de le faire. En tout cas, moi, ce que j'entends tout le temps, quand, par exemple, des nouvelles personnes qui arrivent, qui vont me dire combien ils se sentent mieux depuis qu'ils viennent à Parkinson en mouvement, moi, je constate comment quelqu'un, par exemple, qui est venu, qui a pris 4 ou 5 cours, je vois une différence dans sa démarche après 4 ou 5 présences dans nos cours. Puis c'est pas pour dire que ça règle tout, là, tu sais, c'est pas magique, là, mais sincèrement, on le voit, la différence. On voit, puis le plaisir que les gens ont, ça, c'est un élément qui est important aussi. C'est pas juste l'aspect physique du mouvement, mais c'est aussi tout l'élément social qu'il y a là-dedans, le plaisir d'interagir avec d'autres personnes. C'est comme moi, je regarde, ils font... Bien, c'est ça, dans chaque programme, habituellement, tu as une période où les gens font de l'improvisation, puis il se passe le mouvement d'une personne à l'autre. Alors, exemple, Sarah va commencer un mouvement, tout le monde dans le groupe va la suivre. Ensuite, elle va passer à l'autre personne à côté d'elle, tout le monde va les suivre, et chacun, selon sa capacité physique va faire des mouvements différents, mais c'est comme une communication par le mouvement. Mm-hmm. En tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis pas
habillée. Mais vous abordez vraiment, Jacqueline, une dimension qui me semble assez intéressante et importante. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Sarah. Pendant plusieurs années, suite au diagnostic de la maladie de Parkinson, vous avez voulu éviter les gens qui vivaient avec la même maladie que vous. Et là, maintenant, j'imagine qu'au cœur même de Parkinson en mouvement, il y a cette rencontre-là, ces échanges-là avec les personnes qui vivent à peu près la même réalité. Ça aussi, c'est un côté important de Parkinson en mouvement, cet échange-là.
Oui, c'est comme un groupe de soutien, mm-hmm, dansant. Les gens ont des amis, on rit ensemble, on prend un café après le cours. C'est un lieu de rencontre naturel et avec un focus sérieux et joyeux en, mm-hmm, même temps. Mm-hmm. Et c'est rare que moi, je fais une même activité pendant plus qu'une année ou, ouais, même plus qu'un mois.
Est-ce que les conjoints, les amis peuvent se joindre au cours?
Ah oui, on les encourage à venir. Alors, on a des gens, par exemple, maintenant dans les groupes, il y en a certains qui viennent accompagner de leur conjoint. Il y en a d'autres qui sont avec des aidants parce que, bon, la maladie, mm-hmm, est un proche aidant parce que c'est, en tout cas, leur état de santé sont plus affaiblis, là. Alors oui, absolument, parce que c'est intéressant, parce que, en tout cas, souvent, les conjoints vont nous dire, pour eux aussi, juste le fait d'avoir cette expression-là corporelle, ça leur permet d'exprimer des choses, ça leur permet, mm-hmm, de rencontrer d'autres personnes, de dialoguer. Alors, je trouve que c'est très enrichissant pour eux aussi, presque autant que pour les personnes qui ont le Parkinson. Ce que je dirais, moi, ce que je constate, parce que ça fait comme 2 ans que je travaille avec les gens de Parkinson en mouvement, l'écueil principal, je dirais, et puis Sarah en a parlé un peu tout à l'heure quand elle a parlé de sa maladie, c'est qu'idéalement, les gens, quand ils ont un diagnostic de Parkinson, devraient rapidement s'habituer à faire des activités physiques, mm-hmm, pour contrer les problématiques physiques de cette maladie-là. Malheureusement, souvent, les gens, quand ils ont le diagnostic, sont portés à aller se cacher parce qu'ils ne veulent pas avoir cette maladie-là, ils ne veulent pas identifier avec ça. C'est comme un choc. Puis on ne veut pas se voir avec ça. Et je trouve ça vraiment malheureux parce que je regarde comme nous, notre programme, on le voit, si les gens, le plus tôt après un diagnostic, viennent chez nous, les effets sont, en tout cas, quintuplés, si on peut dire.
Oui. Et assez visible, là, tout à l'heure, vous parliez d'une amélioration de la posture. Donc, ça, pour moi, c'est très, très concret. On l'observe rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits comme ça que l'on peut observer là, très rapidement?
Il y a la façon de marcher, les grands pas versus les petits pas. Il y a la réalisation que la musique même peut aider à démarrer un mouvement ou marcher à un rythme
qui est plus rapide.
Oui, c'est ça.
Oui, et puis peut-être que je me trompe ou que ça n'a pas encore été prouvé, mais il y aura un rôle de la musique sur la dopamine. Là. Ça, il y a des recherches, du moins en ce sens-là, et on sait que la dopamine, ça a un rôle aussi important avec la maladie de Parkinson.
Ah oui, oui, bien c'est ça, c'est qu'on le voit, c'est l'activation du cerveau, l'impact de la musique. Il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des analyses là-dessus, là, des neurologues, neuropsychologues aussi. Et puis, c'est certain que le fait d'avoir un rythme a un impact sur ta capacité de bouger. Mm-hmm. OK, ça te fait avancer, puis ça te fait avancer d'une façon différente. Alors oui, effectivement, il y a ça. Puis tu vois, comme là, parce que là, on parle beaucoup de danse, mais je voudrais juste aussi faire une petite parenthèse pour dire qu'on a aussi un programme de chant.
Oui.
Parce que la réalité du Parkinson, c'est que ça réduit l'amplitude au niveau des mouvements, mais aussi l'amplitude au niveau de la voix et dans l'expression de la voix. Alors, on offre, nous, des programmes aussi, les gens chantent ensemble pour les habituer à projeter davantage. Alors, autant on les amène à projeter leurs mouvements dans l'espace, on fait la même chose pour la voix de donner davantage de volume, puis aussi d'expression à la voix. Parce que ça aussi, ça s'opère là, graduellement. Là.
Puis encore là, vous n'avez pas de registre de chansons, vous favorisez rien, autant dans le style de danse que vous employez que dans les styles de chansons. Là, tout est le bienvenu, tous les styles sont abordés.
Ah oh, oui, regarde, de bac à bottine.
Et ça, c'est important, j'imagine, de pouvoir explorer tous les répertoires, de pouvoir faire toucher à vos élèves tous les styles, qu'ils puissent évoluer dans cette liberté-là.
Oui, et le réchauffement qui est important. Mm-hmm. Et on a un professeur de chant qui est vraiment formé et qui chante très bien, chante dans des chœurs, Elle a chanté en fin de semaine avec Montreal Jubilation Choir. Et elle nous fait ouvrir la bouche, rond, respirer. Et elle nous fait danser en même temps qu'on chante des fois.
Parce que ça peut être une difficulté, Sarah Humphrey, ouvrir la bouche grande, pouvoir respirer aussi adéquatement, librement. Tout ça, ça fait partie des petites difficultés quotidiennes de quelqu'un qui vit avec le Parkinson?
Oui, il y a plusieurs personnes dans notre classe qui ont de la misère à les comprendre parce que la voix devient de plus en plus faible. Alors, c'est encourageant pour eux autres d'avoir pas juste l'impression, mais de faire quelque chose pour empêcher une dégénération encore plus rapide.
Il y a aussi un impact sur l'expression faciale, je pense, hein?
Oui, bien, c'est ça, c'est que ça va ensemble. C'est qu'en travaillant tout ça, c'est que ben, tu as l'expression faciale, mais tu as l'expression aussi au niveau du mouvement corporel. Tu sais, quand on disait, par exemple, que... Sarah disait qu'un des objectifs, entre autres, c'est d'ajouter de l'amplitude dans le mouvement quand les gens marchent ou tout ça. Mais c'est aussi le fait d'avoir l'aisance dans le mouvement. Puis tu as l'aisance aussi au niveau de la voix, de l'expression faciale, de l'expression vocale et tout ça. Et en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup rajouter aussi, c'est que si je regarde dans les groupes, c'est qu'on a des gens qui sont à des étapes différentes de la mélindie. Qui l'ont depuis plusieurs années, depuis peu de temps. Et je trouve extraordinaire, c'est de voir la communication entre toutes ces personnes-là et la capacité de partage et, tu sais, qu'on puisse danser tout le monde ensemble, même si on n'est pas tous au même niveau. Mm-hmm. Je garantis que tout le monde bouge et bouge vraiment. Là. Ils ne sont pas assis sur des chaises.
Et avec plaisir. ParkinsonEnMouvement.org. En terminant rapidement, mesdames, est-ce que vous acceptez tout le monde? Est-ce qu'il y a des prérequis? Comment on fait pour aller prendre des cours de danse avec vous?
On doit prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit par courriel. Et on fait, on a quelques questions à poser pour faire un genre de triage entre nos différents niveaux de cours. Et ensuite, il y a une rencontre avec un professeur pour vérifier si c'est approprié pour la personne.
Alors, on mettra votre site sur le nôtre. Sarah Humphrey, vous êtes présidente et fondatrice de Parkinson en mouvement et Jacqueline Nascar, responsable du développement. Merci à vous deux. Un très bon temps des fêtes.
Merci beaucoup et beaucoup de danse à vous tous.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Julie Bourbonnière, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice des communications et du financement chez Moisson Montréal. Et je le disais tout à l'heure, une période, la période du temps des fêtes, qui est peut-être un moment où on se sent plus sollicité, plus généreux, on a envie de donner, on le sait bien, les gens démunis qui sont dans le besoin ont besoin d'aide à l'année. Mais c'était une période choisie pour parler de comment on peut venir en aide d'une façon adéquate à ces familles, du moins sur l'île de Montréal. Donc, Julie, lorsqu'on voit, que ce soit dans notre milieu de travail ou ailleurs, des paniers de Noël, quelles sont les denrées peut-être les plus... qu'on pourrait le plus favoriser? Qu'est-ce qui est préférable de donner?
Oui. Bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les produits qu'on recherche le plus sont les pâtes alimentaires, le riz, des produits qui sont pas facilement trouvables puisque qui ont une durée de vie assez importante et qu'on n'en a pas beaucoup des fournisseurs parce qu'il y a très, très peu de pertes liées à ces produits-là. Donc, à part ça, évidemment, on cherche tout ce qui est protéiné, que ce soit poisson en conserve, viande en conserve comme poulet, tout ça, jambon qu'on peut retrouver là. Également des soupes-repas, des légumineuses, du riz déjà préparé aussi, différents repas qui pourraient être déjà en conserve comme des ragoûts de boulettes et tout ça, qui vont faire que pendant la saison plus froide, les gens vont réussir à obtenir des repas qui vont être nutritifs et protéinés pour leur permettre de justement combattre les éléments et avoir toute l'énergie nécessaire dont ils ont besoin pour faire leurs activités là, quotidiennes.
Je me demandais, Julie, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à donner des aliments qui sont périssables? Je pense, par exemple, à dire, moi, je voudrais donner une dinde. Il me semble que pendant la période des fêtes, les familles ont envie de se réunir autour de ça, mais bon, je ne sais pas trop comment ou aller porter ça. Est-ce que c'est quelque chose de possible?
C'est pas une très, très bonne idée parce que, outre chez Moisson Montréal où on a des installations importantes, la plupart des organismes n'ont pas, comme je dis, les congélateurs, les frigos pour pouvoir, pour pouvoir garder ça, les conserver à un certain moment. Puis aussi, on ne sait pas, hein, les bénéficiaires qui viennent dans les organismes avec lesquels on travaille. Cette année, c'est 158 organismes avec lesquels on travaille parmi nos 250 qui participent à la campagne des paniers de Noël qu'on fait. Donc, ces gens-là qui sont bénéficiaires des organismes, on ne sait pas est-ce qu'ils viennent en transport en commun, en auto, camion.
Oui, oui.
Donc, il faut prévoir tout ça. Donc, ce n'est pas le type de denrée qu'on mettrait de l'avant. Par contre, les couches, les produits pour bébés, le lait pour les nourrissons, ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout à une période difficile comme le temps des fêtes où certaines banques alimentaires vont être fermées aussi pendant le temps des fêtes et où on prépare donc des quantités plus importantes à leur donner lorsqu'ils viennent à nos installations.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à donner des jouets?
Absolument. Beaucoup d'organismes à Montréal prennent les jouets. Nous, c'est sûr qu'on ne court pas après ça, mais si on en a, on les redonne aux organismes avec lesquels on travaille, qui ont des enfants et des familles dans leurs bénéficiaires.
Je reviens, Julie, à ce que vous nous disiez tout à l'heure, donc les aliments les plus recherchés, les plus appropriés, de plus en plus, et bon, bien sûr, moi, j'y accorde cette importance à la santé. Est-ce que vous invitez les gens qui nous écoutent à faire attention à ça? Quantité de sel, quantité de sucre, est-ce que, selon vous, c'est important?
Oui, absolument. C'est important de donner des denrées nutritives. C'est aussi une demande que l'on fait auprès de nos fournisseurs pour qu'ils nous donnent des produits de qualité. Et puis aussi, j'invite les gens à peut-être faire l'épicerie pour faire un don, puis pas se débarrasser de ce qu'ils ont dans leur armoire et qu'ils n'ont pas pris depuis 6 mois, 1 an. Parce qu'il y a des bonnes chances que les personnes qui vont les recevoir ne sauront pas plus qu'eux quoi faire avec ce type de produit-là.
Ah oui. Assez bon conseil, ça, en effet. Julie, maintenant, peut-être d'un côté plus pratico-pratique là, pour les familles qui nous écoutent en ce moment, qui seraient dans le besoin, comment on fait pour se procurer un panier de Noël pendant le temps des fêtes là, si on est dans le besoin?
Chez Moisson Montréal, comme je vous disais, on fait affaire avec 158 organismes qui remettent des paniers de Noël cette année. Donc, selon le quartier, il y aura différents organismes, donc soit qu'ils peuvent appeler chez nous. C'est sûr que là, il est un petit peu tard dans la saison des paniers de Noël. La plupart des organismes qui ont des bénéficiaires réguliers ont déjà complété pour les paniers de Noël, mais il va y avoir des sacs de produits provisions d'urgence également qui vont être remis un petit peu plus tard, entre le 23 et le 29 décembre. Donc, soit qu'ils appellent ici, soit qu'ils trouvent un organisme dans leur quartier en s'adressant aux services sociaux appropriés. Souvent, dans les écoles aussi, ils ont des ressources pour rediriger ces familles-là vers les centres d'aide et communautaires.
Mm-hmm. Donc, on peut aller aussi, j'imagine, sur votre site pour voir les organismes qui sont le plus près de chez nous.
Oui, oui. C'est pas nécessairement indiqué. On a la liste de nos organismes, par contre, mais le but, vu que nous, on n'est pas un organisme public, c'est pas nécessairement pour que le public vienne visiter notre site pour avoir cette information-là. Par contre, sur le site de Banque alimentaire Québec, eux, ils ont vraiment une carte qui détermine partout les points de chute. C'est quelque chose sur lequel on travaille, qu'on aimerait ça avoir éventuellement, mais il y a des coûts assez importants à l'implantation d'un tel service en ligne, puis on garde ça pour une année future. On a beaucoup d'activités cette année.
Et les sacs d'urgence dont vous parliez, Julie, c'est... pendant la période des fêtes, est-ce qu'il y en a d'autres moments de l'année où vraiment pendant vous ciblez la période des fêtes pour les sacs d'urgence?
On dit des sacs d'urgence parce que normalement, Moisson Montréal et les organismes sont ouverts de manière régulière, 5 jours par semaine. Oui. Là, avec le congé des fêtes, c'est sûr que les gens vont avoir besoin d'un peu plus de denrées peut-être. Donc, ces sacs-là vont être confectionnés samedi qui vient, le 19 décembre, par des bénévoles qui vont venir chez nous lors de ce qu'on appelle l'événement de la moisson de Noël. Donc, c'est notre dernier événement public avant le temps des fêtes où on prépare 12 000 sacs de produits. Oui, c'est une centaine de personnes qui viennent ici, puis ça va assez vite là, pour les préparer, tous ces sacs-là.
Julie, il reste une minute, mais rapidement, je tiens à redire que les gens dans le besoin, bien, il y en a à l'année, pas juste pendant la période des fêtes. D'ailleurs, au mois de juillet dernier, vous avez fait une grosse collecte, je pense. Donc, d'autres événements d'envergure en ce sens-là à surveiller?
Ah, ben oui, évidemment. On va avoir une campagne en début d'année qui va solliciter les dons du public, qui va être dirigée un peu plus vers les familles et les personnes âgées. Puis ensuite, il va y avoir la grande récolte pour les enfants début du mois d'avril qui va vraiment mettre de l'avant le besoin des jeunes familles, des nourrissons et des enfants d'âge préscolaire.
On va surveiller ça de près, Julie Bourbonnière. Je le rappelle, vous êtes directrice des communications du financement chez Moisson Montréal. Bonne période des fêtes à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien de la Liberté, merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain. C'est Marianne Paquette. Portez-vous bien. Bye bye.